Ça commence par un nom que l'on chuchote pas bien fort pour voir si ça marche. On le dit tout bas, on regarde autour de soi, on teste. Non à une bouchée de ce plat qui ne nous convient pas. Non à un geste, non à une présence, à un autre qui ne nous plaît pas. Désobéir, nous dit le dictionnaire, c'est refuser de se soumettre à une loi, quelle qu'elle soit. La loi parentale, celle de l'école, celle si nombreuse de la société. Désobéir, c'est dire non à quelque chose qui est déjà joué et que sur le papier, on n'a pas le droit de contester. Alors ce non, encore une fois, on le chuchote, hein, pas bien fort, parce que c'est littéralement une toute petite voix, la nôtre, singulière, personnelle, qui repose sur quoi ? Ben sur le sentiment qu'on n'arrive pas toujours à formuler, qu'on fait partie d'un groupe, mais qu'on n'est pas forcément d'accord avec le fonctionnement de ce groupe, qu'on n'a pas signé de contrat, qu'on n'a pas voté quoi que ce soit, qu'on n'a pas donné notre voix. Dire non, c'est exactement ça, c'est donner une voix, une petite voix qui n'a rien de révolutionnaire quand on y pense, au contraire. Cette voix, elle dit d'abord tout bas qu'on a le droit de défier la loi, si elle nous semble injuste, pour justement la réhabiliter, la loi, pour la réactiver, pour lui redonner les conditions de sa possibilité. Alors vous me direz, à raison, pour ça il faut une drôle de confiance en soi, qu'il faut avoir les moyens, que c'est un privilège de désobéir, de pouvoir se permettre de dire non. Mais moi je crois que ça relève aussi de l'éducation.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui semble faire l'éloge de la désobéissance utile. Il est l'auteur de l'une des héroïnes les plus populaires de la littérature jeunesse, la redoutable Mortelle Adèle, dont vient de paraître un nouvel album intitulé Show Bizarre, toujours illustré par Diane Lefeyer et accompagné d'un disque signé Aldebert, truffé de tubes tels que Pas de pitié pour les Nasbrock, Vive les cookies ou encore Poussez-vous les moches. Bonjour Antoine Doll.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de votre invitation.
Aujourd'hui, je vous appelle Antoine Doll, Monsieur Tan, les deux.
Oui, les deux cohabitent très, très aisément.
Bah, ça, il va falloir qu'on en parle, parce que si vous commencez comme ça, à quoi est-ce que vous avez l'impression de désobéir d'abord, vous?
Écoutez, moi j'ai mis du temps dans ma vie d'adulte à apprécier le goût sur la langue du nom qu'on prononce, mais j'ai appris à désobéir, oui, peut-être à la trajectoire qui m'était destinée et à explorer d'autres chemins.
Et pourquoi est-ce qu'il faut s'efforcer de désobéir parfois? Pourquoi ce pari de la désobéissance?
Je crois que la désobéissance, ce qui est chouette, c'est l'outil de transformation qu'elle est dans la vie des gens, dans la vie de nos sociétés. On parlait tout à l'heure de désobéissance utile. Moi, je trouve que c'est un très joli terme pour dire toute la nécessité qu'on a de réinventer le monde autour de nous en permanence.
Il vous arrive de penser, Antoine Doll, que petit, notamment, vous avez un petit peu trop obéi, justement?
Ouais, moi j'étais un enfant très sage. Moi j'avais très peur qu'on m'aime pas en fait. Et donc du coup, j'étais cet enfant un peu plante verte qu'on prenait un endroit, on le mettait à un autre et qui râlait pas trop.
Ah bah l'enfant Jardiland.
Ouais. C'est ça, ah un bah, enfant avec des racines profondément ancrées.
Alors vous obéissiez à quoi?
J'obéissais à tout. J'étais un enfant qui faisait pas beaucoup d'histoires. Alors c'est étonnant parce qu'aujourd'hui on a des lecteurs qui me disent mais toutes les bêtises de Mortelle Adèle, elles vous viennent de votre enfance. Alors en fait non.
C'est ça, ouais. Parce que cette héroïne, Adèle, c'est une héroïne qui défie sans arrêt l'autorité, les normes. Et ça a forcément un sens pour vous.
Complètement, bah ça a un sens à l'endroit où elle est née. Adèle, c'est un personnage qui est né dans mon enfance, puisque je l'ai écrit quand j'avais 14 ans.
Oh là là.
Et j'avais besoin à ce moment-là de déformer le monde autour de moi, et elle est née vraiment de cette énergie-là.
D'un traumatisme, de trauma.
Oui, c'était une époque où j'étais victime de violences scolaires, donc j'étais de la 6e à la 4e pris pour cible par un groupe de garçons pour plein de raisons, et effectivement, j'avais besoin à un moment donné d'exprimer cette colère, d'exprimer aussi la peur que j'avais de disparaître dans cette violence-là.
Ce qui est intéressant, c'est que ça passe par un dédoublement, la création d'un alter ego.
Tout à fait. Et en fait, j'avais besoin qu'on me regarde et qu'on me dise que j'existais. Donc j'ai pris une feuille et j'ai dessiné les yeux d'Adèle. C'est la première chose que j'ai dessinée. Et j'avais besoin qu'elle me regarde et qu'elle me dise « Moi, je sais qui tu es, je sais que tu existes. »
Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent de Monsieur Moustache, qui est mon double imaginaire, Antoine Doll. Qu'avez-vous le sentiment qu'elle vous ait appris, en fin de compte, cette Adèle?
Tout. Honnêtement, c'est un personnage qui a changé ma vie, qui la change encore aujourd'hui. C'est un personnage qui m'a appris l'importance de s'inventer, au-delà de ce que les gens nous destinent et ce que les gens nous façonnent autour de nous. Il y a cette nécessité, à un moment donné, de choisir qui on est, de choisir qui on veut devenir. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a appris, qu'on n'est pas obligé de polir les angles, qu'on n'est pas obligé de lisser les contours de notre sensibilité, de notre façon d'être pour trouver notre place.
Mais c'est intéressant quand même qu'elle soit née comme une réponse à la violence, et plus particulièrement à la violence scolaire. Violence scolaire qui est au cœur de certains de vos livres, je pense par exemple à Naissance des cœurs de pierre ou à Copier 100 fois. Que peut un livre contre les violences, Antoine Doll?
Alors, contre les violences, je suis pas sûr qu'ils puissent grand chose, parce que ces violences, elles existaient quand moi j'étais collégien. Alors, je vous parle de ça il y a 25 ans.
Elles existent toujours, c'est un vrai sujet.
Et voilà, et elles existent toujours. Et donc, je suis pas sûr.
Et démultipliées par les réseaux sociaux.
Et puis, avec une violence qui est phénoménale aujourd'hui, effectivement, parce qu'elle rentre dans les maisons, elle rentre dans les foyers, elle rentre beaucoup plus dans l'intimité qu'elle ne le faisait il y a 25 ans. Mais ces violences, même si on peut pas y faire grand chose, moi, je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup de choses pour remplir les enfants, les ados, les lecteurs d'amour, de confiance en eux, et de cette idée très précieuse que la différence c'est quelque chose qui leur permettra d'accomplir des choses différentes. Et moi je dis toujours aux lecteurs de Mortel Adèle de célébrer tout ce qui les rend uniques et singuliers, c'est vraiment ce qui va leur permettre de laisser une empreinte sur le monde.
Pour autant, en quoi les livres, le travail des artistes n'est-il jamais suffisant? On l'a encore vu au début du mois à Mulhouse avec le suicide de Dina, une jeune fille victime de harcèlement à caractère raciste et homophobe. Il y a quelquefois cette idée d'impuissance qui vous accompagne?
Les mots, ils ont aussi le pouvoir qu'on leur donne, nous en tant qu'auteurs, mais aussi en tant que lecteur. Il faut à un moment donné, il faut que ces mots ils arrivent dans l'intime, il faut qu'ils arrivent dans la vie de quelqu'un avec quelque chose qui se connecte, qui s'emboîte. Je pense qu'il y a aussi voilà cette limite qui est qu'à un moment donné on ne peut guider les gens vers ce qu'ils sont.
Vous en avez guéri, vous, de vos années de harcèlement?
Alors moi j'ai mis du temps. Je pense que ce qui m'a aidé à guérir, c'est de retourner dans mon ancien collège. Il y a 3-4 ans, j'ai été invité pour parler avec les élèves de Mortel Adèle.
Vous avez vu comme ça semble tout petit quand on
ouais,
y retourne?
C'est minuscule.
Ça m'est arrivé récemment, parce qu'en fait avec nos yeux d'enfant, on voyait ça tout grand.
Exactement, c'est à la fois minuscule et immense. Moi je suis rentré dans cette cour de récréation que j'avais quittée avec le pouce cassé. Et j'y suis retourné, je suis devenu tout blanc. Alors c'était très étrange parce que j'avais à l'époque 35 ans, donc j'étais quand même un adulte solide avec une vie construite et plus de confiance en moi. Et la journaliste m'a dit, mais aujourd'hui tu reviens dans cette cour de récréation avec, à l'époque on avait 2 millions de lecteurs sur Adèle, avec 2 millions d'enfants derrière toi. Et cette phrase a été un déclic vraiment, et j'ai compris que les choses pouvaient se réparer, qu'en tout cas j'avais aujourd'hui le pouvoir d'en faire quelque chose.
Ce qu'il faut raconter quand même, c'est que plus jeune, effectivement, Antoine Nol, vous rêviez de devenir dessinateur, et on vous a cassé le pouce.
Exactement.
Et vous ne vous êtes jamais remis de cette blessure avant ce jour-là.
Exactement, c'est resté une douleur fantôme. Alors, très régulièrement, je passais des radios parce que j'essayais de comprendre cette blessure, pourquoi elle revenait. Alors, elle revenait beaucoup quand je dessinais.
C'était vraiment un mal, en fait.
Ouais, c'était une vraie douleur, une vraie piqûre dans le pouce. Et on trouvait rien sur les radios, on trouvait rien dans les examens. Et moi, je disais, mais si, je vous assure, il y a vraiment une douleur. Et cette douleur, effectivement, a disparu du jour au lendemain quand je suis retourné dans ce collège.
Comment vous l'expliquez?
Je crois qu'il y a une magie des choses, une magie des réponses. Je crois que j'avais besoin de comprendre qu'effectivement j'étais plus ce petit garçon, que j'étais plus tout seul, que j'étais aujourd'hui un adulte capable de se défendre et de réparer les choses.
Ça veut dire que quand vous dessinez aujourd'hui, vous n'avez plus mal du tout?
Non. C'est magique, hein?
Celle qui est magique, mais pas toujours dans cette émission, vous la connaissez Antoine, c'est évidemment la culture et son actualité. Moins j'en fais, mieux je me porte. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 29 octobre?
Moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs. Il fait partie du groupe des cyborgs.
Rendez-vous incontournable de la science-fiction, le festival Utopial se déploie ce week-end à Nantes autour du thème transformation. Il réunit 150 rendez-vous scientifiques et artistiques, 200 invités, 8 expositions et près de 70 projections. On pourra par exemple profiter du classique Dune 85 de David Lynch diffusé lundi, se pencher sur la place des femmes dans la SF, notamment à travers le parcours et l'œuvre de l'autrice Ursula K. Le Guin, ou encore retomber en enfance avec l'expo On dirait que je serai un astronaute au musée Jules Verne. On aime. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never. Deux décennies et demie, Antoine est toujours spicy.
Oui.
En 1996, les Spice Girls révélaient le tube Wannabe et faisaient souffler un vent de sororité pop, tonique, acidulé sur la fin du millénaire. Aujourd'hui, pour célébrer en beauté et en musique 25 ans de Spice Mania, le girl band le plus célèbre du monde publie Spice 25, une réédition de leur premier album porté par des nouveaux remixes, des versions orchestrales et plusieurs démos inédites. C'est déjà un classique.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
pas si mal en salle, malgré un contexte maussade. Les chiffres de fréquentation des salles de cinéma repartent doucement à la hausse ces derniers jours, portés par la sortie des blockbusters comme James Bond, qui enregistre 2,7 millions de spectateurs, Dune à 2,8 millions, et Venom qui fait un démarrage fracassant avec près de 700 000 tickets en une semaine. L'horizon s'éclaircit un peu dans le secteur. Pour preuve, avec 3,4 millions d'entrées enregistrées en une seule semaine, les cinémas renouent avec des chiffres qu'on n'avait plus vus depuis cet été. Allez.
On s'est toujours penché sur le grand cadavre de la littérature qu'on a toujours dit agonisante. La littérature contemporaine, francophone, est très très riche.
Enfin, le choix des immortels. Hier, le grand prix du roman de l'Académie française a été remis à François-Henri Désérable pour « Mon maître et mon vainqueur » paru chez Gallimard en août, préféré au troisième tour du scrutin au dernier tribun de Gilles Martin Chauffier. Le texte met en fiction l'amour passionnel entre une femme mariée et un écrivain enflammé. Il revisite le motif du trio amoureux, haletant, poétique, cruel, fiévreux et drôle, ont commenté les honorables sous la coupole. Et l'auteur Antoine Doll, invité de Boomerang ce matin pour la sortie de ce nouvel album de Mortel Adèle, Show Bizarre. Antoine, quand est-ce que vous avez commencé à écrire ?
À écrire, j'ai écrit depuis tout petit. J'étais fils de commerçant. Je passais beaucoup de temps dans l'arrière-boutique de mes parents à créer des petits livres. En fait, j'adorais ça.
Ah, c'est ça qu'on fait dans les arrière-boutiques, en fait.
C'est ça. Alors oui. Alors maintenant, on joue peut-être un peu plus à la Switch, mais effectivement, à l'époque, j'avais beaucoup de scotch et beaucoup de papier, et j'adorais surtout me rendre compte qu'on pouvait provoquer des émotions chez les autres.
Mais vous fabriquiez littéralement des livres.
Ouais, c'est ça. Je faisais des petits dessins dessus. Je faisais mes petites bandes dessinées
avec du scotch.
Avec du scotch, avec du papier, des crayons et je racontais les rêves que j'avais fait la nuit précédente.
C'était déjà un refuge, l'écriture, pour vous ?
Ça a toujours été. Alors moi, j'ai toujours senti un décalage en grandissant entre moi et le monde immédiat qui m'entourait. Et je trouve que l'écriture a toujours été un moyen d'essayer de réduire ce petit décalage que je ressentais. Ouais.
Et les livres ? Les livres que vous lisiez.
Et les livres sont venus sur le tard. Ils sont venus dans ma vie sur le tard. Moi, j'étais effrayé par la lecture quand j'étais enfant parce que je pensais que tous les auteurs étaient très vieux et très morts.
Alors, c'est presque vrai, Antoine, mais...
Presque. Ça a changé quand même. Mais moi, j'ai grandi dans une ville où Jean-Jacques Rousseau habitait. Donc, forcément, il y avait ce fantôme. On allait tous visiter la maison de Jean-Jacques Rousseau quand on était enfant. Et un jour, j'ai découvert une littérature plus contemporaine avec Valérie Tongkong qui était venue dans ma classe nous présenter son roman Big, avec Virginie des pentes, et d'un coup je me suis rendu compte que la littérature était très vivante en fait.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un livre pour vous ?
Un livre pour moi, c'est quelque chose que je n'offre pas déjà. Je ne sais pas offrir de livre, je trouve que c'est quelque chose de très intime. J'ai beaucoup de mal à donner ces morceaux de sensibilité qui rentrent en moi. Moi j'adore les littérature de l'immobile, celle qui nous amène vers la verticalité de nous, vers un forage intérieur. J'aime cette idée d'exploration, toujours.
Pourtant, écrire des livres, quand est-ce que c'est devenu une évidence pour vous ?
Je crois que j'ai passé, je pense, de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans à bassiner tout le monde, à dire je deviendrai écrivain sans jamais vraiment écrire. Et c'est devenu une évidence quand j'ai compris que c'était pour moi le meilleur moyen de toucher les gens et de me lier aux autres. Moi, j'ai toujours eu un problème à ça, à appartenir au groupe, à rentrer dans le groupe, à faire partie de quelque chose. Et je trouve que l'écriture est un moyen élégant et comme un état de stase par lequel on rentre en douceur dans la vie des autres.
Votre premier roman, paru il y a 13 ans, Antoine Doll, il s'appelait « Je reviens de mourir ». Vous y racontiez l'histoire d'une adolescente dont le petit ami la pousse à se prostituer. Vous dites qu'à partir de là, vous avez ressenti, c'est presque un cliché, hein, que la littérature jeunesse n'était pas considérée par certains comme de la vraie littérature.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait ?
J'ai souvent témoigné de cette sensation où on m'a beaucoup dit dans ma carrière d'auteur jeunesse, mais quand est-ce que vous allez faire un vrai livre ? Et je trouve ça très étrange parce que pour moi, il n'y a pas de faux lecteur non plus.
C'est quelque chose qu'on a entendu dans cette émission à ce micro avec une Marie-Aude Muraille, un Timothée de Fombelle, un Jean-Claude Mourleva, une Marie Desplechin. Dans quelle mesure diriez-vous quand même que le regard sur la littérature jeunesse évolue ?
Ben, il évolue, mais très clairement. Moi, je vous parle de cette expérience. Je reviens de mourir. Il est sorti en 2008. Donc, on est plus dans la même époque. Il y a aujourd'hui des voix incroyables en littérature jeunesse. Et je pense qu'on a aussi compris que la littérature jeunesse, elle a des grands pouvoirs. Elle peut réparer les vivants. Et ça, je trouve ça incroyable. De préparer des enfants, de leur donner des outils, des jeunes lecteurs à la vie qui les attend. Et je crois qu'il y a quelque chose de très noble que les gens comprennent de plus en plus.
C'est un enjeu fondamental pour vous de s'adresser à des jeunes lecteurs.
Mais oui, parce qu'on s'adresse à, de l'humain en construction, on s'adresse à des gens qui vont, eux, vraiment changer le monde. C'est pas nous qui allons changer le monde, Augustin. Nous, c'est trop tard.
Ah oui, c'est bien trop tard.
Mais cette génération-là, cette jeune génération-là, elle va arriver avec des idées nouvelles, elle va arriver avec des cœurs qui se seront ouverts et nourris d'émotions, et je trouve ça beau de participer à ça.
C'est intéressant ce que vous dites sur la formation des jeunes lecteurs. L'idée aussi derrière la tête de leur donner goût à la lecture, tout simplement.
Oui, à la lecture, parce que la lecture, elle amène à l'émotion, elle amène à la découverte de l'autre, elle amène à l'altérité. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans un huis clos, puisque finalement, la famille, c'est...
Une cellule familiale.
C'est une cellule dans laquelle les seules idées qui vous parviennent sont celles que vos parents font rentrer dans la maison. Et donc, pour peu que vous n'ayez pas accès à d'autres personnes, à d'autres systèmes de pensée, voilà, vous grandissez sur un chemin qui est quand même tout tracé. Et les livres sont des anomalies dans ce schéma-là. Ils font rentrer des déformations, ils font rentrer des déflagrations.
C'est passionnant. Mais comment on fait, c'est une question que je me pose souvent, pour donner envie de lire, Antoine Dole, pour communiquer cette envie? C'est une question que vous devez vous poser aussi.
C'est une question, alors moi j'ai la chance d'avoir entre les mains Mortel Adèle, c'est-à-dire j'ai la chance d'avoir un personnage qui est rentré en endroit de l'enfance de beaucoup d'enfants, que je rencontre ces enfants sur des festivals qui me disent « Ah moi je déteste lire mais j'ai lu tous les Mortel Adèle ». Et je leur dis « Mais quand t'as lu tous les Mortel Adèle, t'as lu plus de 1300 pages, ça veut dire qu'en gros concrètement... »
T'adores lire.
Aujourd'hui t'es un lecteur, t'es un vrai lecteur et t'es capable d'absorber, t'es capable de te nourrir, t'es capable de rentrer dans une histoire. Et c'est ça le vrai secret de la lecture, c'est des rencontres, c'est qu'on rencontre des livres comme on rencontre des amis. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, on n'est pas obligé d'aimer tous les gens qu'on rencontre, mais des fois, comme ça, dans la vie, on a ses cadeaux, on rencontre des gens et on en tombe amoureux et deviennent nos amis. Et voilà, je crois que c'est ça le secret de la lecture.
Sans compter toutes les petites filles qui s'appellent Adèle à cause de vous.
En plus, et des chats qui s'appellent Ajax, mais vous imaginez, Ajax, c'est un nom que j'ai trouvé en regardant ce que j'utilisais pour nettoyer mes toilettes.
Oui, bon, on ne cite pas de marque, mais on avait compris. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, d'un livre en tant que lecteur, Antoine Dole?
Moi, j'attends que ce livre me bouleverse, me change, me transforme. Alors, en tant qu'auteur, moi déjà, je voulais me faire un tatouage à chaque livre que j'écrivais. Alors, quand je me suis rendu compte que j'allais en écrire beaucoup, j'ai très vite arrêté cette idée, mais j'ai gardé cette idée de me faire quelque chose dans la chair à chaque fois qu'un livre que j'écrivais était vraiment important dans mon parcours d'auteur.
Alors, vous faites quoi?
Je fais des tatouages.
Ouais.
et j'aime cette idée de l'encre dans la chair. Et en tant que lecteur, moi, j'attends vraiment d'un livre qui m'amène plus près de moi.
Qui vous aide à mieux vivre, en fait, si je comprends bien.
Qui m'aide à mieux vivre qui je suis. Ouais, tout à fait. J'aime cette idée du forage. J'aime cette idée de verticalité et un livre qui vous amène au plus près de vous, je trouve que c'est assez incroyable à vivre.
Bam, ma question préférée. Quand est-ce que vous vous sentez vivant, Antoine Dole?
Vraiment, quelle question difficile. Quand est-ce que je me sens vivant? Vous savez, moi j'ai publié un roman qui s'appelle Six pieds sur terre, qui parle justement de la difficulté que c'est de marcher parmi les vivants et de se sentir vivant. C'est quelque chose que j'apprends tous les jours de ma vie d'adulte. Voilà, qu'est-ce qui me rend vivant? Écoutez, hier j'ai passé une très belle journée où je me suis senti très aimé. J'ai fêté mes 40 ans et je voudrais que toutes les journées ressemblent à celle-là.
Et mortel, quand est-ce que vous vous sentez mortel? Parce qu'après tout, les aventures de votre héroïne sont bel et bien placées sous le signe de la mortalité. Mortel, ouais. Adèle.
La mortalité, c'est ce qui a donné naissance à Adèle. C'était cette sensation de disparaître, cette sensation de mort. Et je crois qu'il y a... Moi, les moments où je me sens le plus mort sont aussi paradoxalement peut-être ceux où je me sens le plus vivant. C'est ceux où d'un coup, vous avez cet instinct de vie qui prend le dessus et qui vous oblige à crier, qui vous oblige à exprimer au monde qui vous êtes. Et je crois que je me sens à la fois extrêmement mort quand je décide d'écrire un bouquin, parce que c'est souvent ce qui motive ce besoin d'exister plus fort, d'écrire un livre et de m'exprimer sur un sujet. Et c'est à la fois ce qui me rend très vivant, puisque c'est finalement le moment où je deviens solide.
Vous savez ce qui est ironique? Je vous le disais tout à l'heure, c'est que cette Adèle, vous la dites mortelle, mais en fait, contrairement à d'autres héroïnes de jeunesse, elle ne grandit pas, donc elle est immortelle.
C'est ça, et c'est très beau, je trouve cette boucle de l'enfant, je trouve que ça dit aussi quelque chose de nos vies. Il y a beaucoup d'adultes en grandissant qui oublient qu'ils ont été des enfants et qui sont peut-être même toujours un peu des enfants à l'intérieur. Et je trouve que c'est très beau, cette idée d'une enfance qui ne vieillit pas, qui ne se transforme pas et vers laquelle on peut se retourner à des moments de notre existence pour y trouver des réponses.
Venez, on se retourne là maintenant.
Allez.
On se retourne avec un titre qui m'évoque, moi, la jeunesse et la désobéissance. Peut-être que vous allez le reconnaître tout de suite. Diams, sur l'album Dans ma bulle, en 2006, France Inter, Antoine Dole. Et il y a comme un goût de boum boum dans Boomerang, évidemment.
Alors ouais, je me le raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop dark dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macare, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore,
hardcore
dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est.
Dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Merco. Y'a comme un goût de coup, coup, dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulet, de boulette qui saute dans la foule.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non.
C'est assez fascinant, c'est la première fois que ça m'arrive, on est quelque part entre Petit Ours Brun et Petit Ours Brun. Winnie à la rigueur, pas le genre à commettre une boulette, à siffler le pot de miel en douce, ou à se laisser berner par un nez fêlant, ou une ouïe, vous vous souvenez, regard et sourire duvet, air juvénile, avec son cheveu fontaine de jouvence, s'il vous plaît, tout en trou dans le jean, si vous pensez que j'ai pas remarqué.
Oui, j'ai regardé, il n'y a rien qui dépasse, tout va bien.
L'écrivain Antoine Dole, auteur de Mortel Adèle, classe, invité de Boomerang ce matin, et c'est intéressant parce que cette année, vous avez publié votre premier roman de littérature générale, pourrait-on dire.
Exactement.
Et qui s'appelle Six pieds sur terre, un roman qui interroge le passage à l'âge adulte, justement. Vous vous sentez adulte, vous?
Écoutez, je me sens adulte depuis ce roman. Ouais, c'est un roman qui m'a vraiment aidé à un moment donné à comprendre que l'âge adulte n'est pas quelque chose qui recouvre l'enfance comme je le pensais, mais vraiment un continuum et qu'on avance simplement vers ce qui nous rend vivants, et donc à travers ça on devient adulte. Ouais.
Vous parliez de l'esprit d'enfance en chacun de nous. Dans quelle mesure Antoine Dole, écrire, c'est justement cet acte qui va nous permettre de renouer avec l'enfant qu'on a été?
Moi, je considère pas que j'écris pour les enfants. Je considère que j'écris de l'enfance. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Ouais.
C'est d'être resté connecté à cette énergie. Et cette idée que, effectivement, tout ce qu'on est, tout ce qui nous constitue, tout notre rapport au monde, à l'amour, aux autres, se forge dans ces années-là. Et on a tendance à chercher beaucoup de réponses quand on est grand, alors qu'elles sont déjà en nous. Elles ne font que s'altérer, s'abîmer, se diluer au fur et à mesure qu'on grandit.
Mais alors, je me pose la question, quel enfant est-ce que vous êtes encore aujourd'hui?
Bah, regardez, je suis un enfant souriant.
Ouais.
Je suis un enfant qui aime jouer, qui aime se faire des amis, qui aime... qui aime créer. Voilà, moi, ce qui me rend heureux tous les jours, et c'est la chance de faire ce métier, c'est de créer des univers, d'y inviter des gens. Et
vous dites, Antoine Dole, que vous ne voulez pas en avoir des enfants.
Alors, oui. Il y a quelque chose qui est ici à un endroit de moi où je me pose beaucoup de questions sur cette filiation de la douleur que j'incarne aussi dans mon histoire, dans mon passé familial, et effectivement cette question de savoir si j'ai envie ou pas de poursuivre cette filiation là,
de transmettre quelque chose de terrible.
Ouais, moi ça me fait un peu peur. Voilà, je trouve que c'est bien aussi à un moment donné d'être le gardien d'un temple et de le fermer. Puis bon, j'ai pas d'enfant, mais j'en élève une qui est une fille de papier qui s'appelle Adèle et qui prend beaucoup de place et puis qui me permet quand même de rentrer dans la vie de millions d'enfants.
Y a-t-il aussi l'idée d'un monde impossible qu'on devrait laisser à nos enfants, aux enfants que l'on fait?
Je sais pas. Je pense que les enfants, ils s'empareront du monde et ils le réinventeront avec tout ce qui les a nourris eux. Le monde impossible, c'est celui dans lequel on vit. On vit toujours, nous, dans une époque impossible, à l'instant T où on respire. C'était toujours mieux avant, ce sera toujours mieux plus tard. Et c'est ça qui est terrible dans nos existences.
C'est beau cette expression de petite fille de papier, Antoine Dole. Qu'est-ce qu'on met au monde, au fond, quand on écrit un livre?
Alors, moi, j'ai découvert la paternité grâce au succès d'Adèle. Cette notion de quelque chose qui existe au-delà de soi si fort. Moi, j'étais terrorisé à l'idée que quelque chose existe en dehors de moi, sur lequel je n'ai plus de prise. Comment je me lie à lui, comment je le garde près de moi. Et finalement, ce succès, quand on vous annonce que votre série, elle fait 9 millions de lecteurs, c'est quand même assez vertigineux. Et j'ai mis du temps à l'apprivoiser. Et c'est là que j'ai compris que la paternité, finalement, c'est ce désir de voir quelque chose de soi vivre plus loin. Voilà.
Il se trouve que vous nous avez écrit un texte ce matin, un texte comme une lettre que vous vous adressez à vous-même. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous la lisiez.
Mais oui, avec plaisir. Tu es né le 28 octobre 1981, scorpion ascendant scorpion, un mercredi, le jour des enfants, juste à temps pour célébrer les morts dans une ville encerclée de montagnes immenses. Tu as aimé ce monde. Dès l'enfance, tu lui as tout donné, toute ta bonne volonté. Par instinct d'y trouver la particule élémentaire qui déjà te manquait dans la masse préhensible. La solution à cette drôle de sensation de vide dans l'entier, du silence dans le bruit, du détail dans l'immense. Tu as grandi avec une opacité étrange à travers laquelle il t'a fallu apprendre à voir le monde extérieur, comme une proximité impossible et déjà trop solide pour être née de toi. Tu as été, autant que tu l'as pu, un enfant souriant, joyeux, spontané, mais en prise avec une incompréhension insoluble, toujours là pour te retenir une partie de toi en arrière, et prompte à te laisser toujours un peu triste dans la clarté des choses, en disharmonie. Tu en as fait des histoires, des livres, pour te les raconter à toi-même, toutes les pistes que tu suivais, les fils à remonter, comme la preuve que c'était là, quelque part, à portée. Un dernier effort après le dernier effort, tu étais convaincu de ça. Qu'un jour tu saurais, tu tiendrais là, dans tes mains, la forme qu'avait prise cette absence logée en toi au fil des années. L'emboîtement parfait, celui qui aurait fait cesser cette solitude impossible à expliquer. L'idée que nulle part n'existe, quelque chose qui te complète. Tu métabolises encore souvent difficilement l'amour que l'on te porte. Un endroit de ton cœur reste froid, interdit, sans résonance. Longtemps, tu as cru que cela voulait dire que tu étais un peu mort au-dedans. Tu as bataillé beaucoup contre ton invisible. Tu as réussi des fois à tenir des soleils. Mais toujours la lumière redessine des ombres en toi que l'écriture discipline, taille et empêche de se répandre. C'est ce qui, sans doute, t'a la plupart du temps empêché de disparaître. Mais tu n'as jamais cessé d'écrire, sans te douter une seconde qu'en réalité ce sont tes livres qui étaient en train de t'écrire, et que tu étais la réponse que tu cherchais tout ce temps. Antoine, les mots ont ce pouvoir, tu sais, d'écrire le toi solide, le toi qui rencontre le monde, le toi vivant. Le toi qui se tient là, capable de ressentir et de se lier à l'autre. Et tu as appris, livre après livre, à enjamber le lit de tes ténèbres pour marcher parmi les vivants. Antoine, tu as eu 40 ans hier, il était temps. Bienvenue 6 pieds sur terre.
À vous entendre, Antoine Dole, c'est l'écriture qui toujours vous sauve.
C'est l'écriture qui toujours me sauve, exactement.
Vous sauve de quoi ?
Me sauve de cette idée de disparaître, me sauve de cette idée de non-existence, me sauve de cette idée qu'un jour je vais cligner des yeux et que quelque chose va m'emporter à ce moment-là.
Parce qu'on cligne des yeux à ce moment-là ?
Bah peut-être, pourquoi pas. Il suffit peut-être d'un bâillement, je ne sais pas, quelque chose qui vous emmène.
Vous êtes arrivé de penser que vous n'arriveriez pas à les atteindre, vos 40 ans.
Oui, oui, oui. Pour moi, c'est assez incroyable d'être là. Ouais. J'ai, oui, beaucoup de fois voulu que ce monde se taise. Et ça a été compliqué de trouver une place, de trouver des gens auxquels je tiens et des gens dont je comprends aussi que qui vont rester près de moi, que je suis pas juste né pour qu'on m'oublie. Ouais, il y a quelque chose qui est du domaine d'un apprivoisement de cette peur.
C'est pour ça qu'elle fait tellement de bruit, cette Adèle.
Ben je pense qu'Adèle, elle est tonitruante parce que c'est la partie de moi qui se débat, c'est la partie de moi qui veut qu'on l'entende, qui veut vivre.
Quand c'est pas l'écriture, Antoine Dole, où est-ce que vous la trouvez, la lumière ?
La lumière, je la trouve dans les gens qui aujourd'hui font partie de ma vie. J'ai la chance d'être petit à petit, d'avoir constitué autour de moi une famille de cœur aussi, de gens que j'aime. Diane Lefeyer, avec qui je partage l'aventure Mortelle Adèle, qui est incroyable. Guillaume Aldebert, avec qui je vis une aventure musicale folle. Mes éditeurs, chez Robert Laffont, chez Bayard, chez...
Et puis les lecteurs et les lectrices aussi.
Et évidemment, j'allais y venir, les lecteurs qui sont incroyables et qui nous témoignent beaucoup de tendresse, d'amour, et de savoir qu'on rentre dans la vie des enfants avec un personnage qui a du sens, avec un message qui a du sens, et de dire aux enfants de célébrer leur bizarrerie et de ne laisser personne jamais leur faire croire qu'ils ne sont rien. Je trouve que c'est une chance incroyable.
Merci Antoine Dole pour la tendresse, pour l'amour et pour cette langue française aussi. Je dois dire que c'est rare d'avoir un invité qui parle aussi bien. Je rappelle que Mortelle Adèle, show bizarre accompagné d'un disque réalisé par l'inénarrable Aldebert vient de paraître chez Bayard. Je précise aussi que votre roman Six pieds sur terre est publié aux éditions Robert Laffont. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, David Leprince cette semaine à la réalisation, Perrine Malinge, Léon Arbillot, Pierre Démé, Jérôme Humbert, Jean-Baptiste Audibert, tout de suite Emmanuel Davier, le rendez-vous de la médiatrice juste après une autre Mortelle Adèle. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when Easy on me, 9h40 sur France Inter. Emmanuel Davier, notre médiatrice. Ouais, ouais.